Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une plus de policiers que de protestataires pour l'instant. Ceux qui sont partis en convoi pour dénoncer le pass sanitaire et les hausses des prix des carburants ont l'interdiction d'entrer dans Paris. On y revient après les autres titres, Christelle.
La guerre est-elle à nos portes? Les États-Unis affirment que la Russie pourrait envahir à tout moment l'Ukraine, mais la diplomatie du téléphone va s'imposer aujourd'hui encore entre les chefs d'État. L'immigration, Marine Le Pen en campagne sur le terrain reprend son thème fétiche pour mieux contrer son principal adversaire. Des bénéfices records pour les entreprises du CAC 40, comment mieux répartir les dividendes au profit des salariés? Dans ce journal, des baskets de l'espace pour Thomas Pesquet, du sur-mesure fabriqué à Toulouse, avec des matériaux qui supportent la pesanteur et aussi la terre ferme. Et puis nous partirons aux Jeux Olympiques en Chine, où il neige par-dessus la neige artificielle, le journal des sports avec Emma Sarango.
Et dans 20 minutes, notre invité, François Bayrou, haut commissaire au plan, président du Modem, maire de Pau. Emmanuel Macron lui doit en partie son élection il y a 5 ans.
France Inter.
Ils sont venus de Bretagne, de Strasbourg, Lille ou encore Nice, des antipasses, d'anciens gilets jaunes, des anti-Macron en tout cas, qui ont repris l'exemple du convoi des libertés au Canada pour mener une action spectaculaire. Le président qui sent le danger à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle appelle dans le quotidien Ouest France les participants au plus grand calme, tout en disant entendre et respecter la fatigue et la colère liées à la crise sanitaire. Mais 7200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour les empêcher d'entrer dans la capitale. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la porte de Versailles sur le périphérique où la police est effectivement mobilisée ce matin.
Oui, pas question de relâcher la pression alors que ces convoyeurs de la liberté, comme ils se surnomment, sont attendus officiellement donc ce samedi à Paris, malgré l'interdiction de manifester. Pour les empêcher de faire, plus de 7000 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis hier, en banlieue, sur les péages notamment, et sur le périphérique parisien. Donc, c'était le cas hein, ce matin encore. Pour vous donner une idée, tout à l'heure, vers 7h du matin, j'ai tenté de rejoindre le centre de la capitale depuis l'autoroute A4 en passant par ce périph. Eh bien, c'est très compliqué. Quasiment toutes les portes de sortie sont fermées avec des barrières et des plots. Forcément, ça crée des bouchons, des embouteillages. Et un samedi matin à cette heure-ci, même si on est en région parisienne, c'est plutôt inhabituel. D'ailleurs, en observant un peu les automobilistes au volant, on pouvait lire sur le visage de certains l'agacement. Mmh. Alors, est-ce que ce sont des travailleurs qui ont peur d'arriver en retard au boulot ou des convoyeurs frustrés de ne pas pouvoir entrer dans Paris? Impossible de savoir pour le moment. D'autant que pour ces derniers, eh bien, la consigne qui circule, c'est de retirer tout signe distinctif, de cacher les pancartes, les gilets jaunes, les drapeaux pour ne pas se faire repérer justement par la police. Bref, pour le moment, c'est le jeu du chat et de la souris. Un jeu dont les règles pourraient bien changer puisque certains manifestants apparemment préfèrent renoncer à rejoindre la capitale, Paris, pour filer directement à Bruxelles, leur destination, leur objectif final.
Ajra Mohamed, merci. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le gouvernement lâche le masque. Il a annoncé hier la fin de l'obligation du masque dans les restos, les bars, les cinémas soumis au pass vaccinal à partir du 28 février. Il restera quand même obligatoire dans les transports ou encore dans les salles de classe.
Le risque d'une guerre en Europe est plus fort que jamais. C'est le diagnostic fait par les États-Unis sur l'éventualité d'un envahissement de l'Ukraine par la Russie.
Ils affirment même qu'une invasion pourrait intervenir avant la fin des Jeux Olympiques de Pékin. Le 20 février. Il y aura encore beaucoup de coups de fil diplomatiques aujourd'hui entre Joe Biden, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Mais de fait, l'armée russe est déployée en étau désormais autour de l'Ukraine, de la Crimée à la Biélorussie. Partons dans le Donbass où la guerre est officiellement figée là-bas depuis 2015. Le quotidien dans les villages sur la ligne de front reste difficile. Reportage à Pavlovol, 350 habitants près de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, de notre envoyé spécial Benjamin Illy.
Ici, on l'appelle la zone grise. La ligne de front est à une poignée de kilomètres. À Pavlopol, on croise plus de soldats que d'habitants. Ils se sont installés dans les maisons, abandonnées par les villageois. Tout le secteur est sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Car de l'autre côté du checkpoint, vous entrez déjà en territoire rebelle.
Il s'appelle Zoya Fyodorovna.
Il n'y a pas de vie ici, nous dit Zoya. Parfois, il y a encore des attaques. Par exemple, la semaine dernière, l'école et une maison juste à côté ont été touchées. La pression est énorme. J'ai bientôt 74 ans, mais avant, j'étais plutôt forte. Sauf que là, j'ai perdu mon frère, mon mari. Mon frère à cause du Covid et mon mari, c'est son cœur qui n'a pas supporté ce stress. J'en souffre aussi. Dès qu'il y a des attaques, tout mon corps tremble. C'est très difficile.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, madame? Ça, j'ai compris. La paix.
Et la santé.
Un homme nous interpelle et comme beaucoup d'habitants ici, il ne voit pas forcément la Russie comme l'ennemi.
Vous pensez que Vladimir Vladimirovitch Poutine est autant bête? Il ne faut pas que la France ni les États-Unis pensent qu'il va attaquer ses frères, les Slaves. Il dit qu'il ne va jamais faire cela.
Et c'est fini.
Reportage à Pavlo Vol de notre envoyé spécial Benjamin Illy. En France, des aveux à minima pour Nordal Lelandais. Devant les assises de l'Isère, l'accusé a avoué avoir enlevé et tué la petite Maëlys, mais pas de manière spontanée, en répondant aux questions de son avocat. Et il n'a rien dit sur les raisons de cet acte. C'est la deuxième phase de sa campagne après le grand meeting de la semaine dernière. Marine Le Pen laboure le terrain, un marché par semaine. La candidate du Rassemblement National était hier à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, pour une réunion publique. Et là où Éric Zemmour pourrait lui faire de l'ombre, elle en est revenue aux fondamentaux, Élodie Forêt.
Un meeting tel un retour aux sources.
Je veux vous parler ce soir d'immigration.
L'immigration, unique thématique d'un discours ultra musclé où la candidate propose de supprimer l'accord de 1968 avec l'Algérie.
Il y a 60 ans, nous avons divorcé de l'Algérie. C'est à nous, visiblement, qu'est revenue la garde et l'entretien des enfants, si vous me permettez cette image.
S'en prend aux ONG qui aident les migrants.
Ne vous méprenez pas, les ONG, ça n'a rien à voir avec Mère Teresa.
Et dénonce les présumées conséquences de l'immigration sur la physionomie de la France.
Les enseignes de magasins en langues étrangères, des langues inconnues qui s'imposent dans l'espace public, des rues entières qui s'orientalisent. Les Français en arrivent à ne plus reconnaître leur pays.
Marine Le Pen qui le martèle, le FN puis le RN ont été les premiers à identifier le péril migratoire, une antériorité qui ferait d'elle la mieux préparée. Sans le citer, la candidate tacle la proposition d'Éric Zemmour d'ériger un mur aux frontières de l'Europe.
Chers amis, ce n'est pas tant un mur physique qu'il faut construire, mais un mur juridique. Un mur juridique infranchissable.
Et de conclure, le seul clivage qui vaille, c'est entre Macron et moi. Dans la salle, le public scande un refrain bien connu. On est chez nous, éternel slogan frontiste.
Et ça contraste singulièrement avec l'accent mis sur le pouvoir d'achat ces dernières semaines. À ce propos, les entreprises du CAC 40 ont publié leurs résultats avec des bénéfices records cette année. 14 milliards d'euros par exemple pour Total Energy, 12 milliards pour LVMH dans le luxe. De quoi relancer le débat sur la répartition de cette manne. Comment mieux en faire bénéficier les salariés? Il faudrait améliorer et élargir l'intéressement et la participation. Thibault Langsade, l'ancien vice-président du MEDEF, a été chargé d'une mission sur ce thème par le gouvernement.
Plus de 50 ans après la mise en place de la participation par le général de Gaulle, il est temps maintenant d'essayer d'aller plus loin. Et si on veut réconcilier les Français avec le capital, on ne peut le traiter que par la participation. Il faut simplifier cette formule pour les petites et moyennes entreprises. Et puis, il faut également la renforcer en modifiant la règle pour qu'elle soit plus contributive. Ce serait plus simple pour les entreprises de moins de 50 d'avoir un pourcentage sur le résultat net de l'entreprise, qui peut être d'ailleurs négocié à l'intérieur de l'entreprise, donc un pourcentage. À partir du moment où on modifie la règle et on la simplifie, il faut l'étendre à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11, où là, il faut pérenniser le dispositif de la prime pouvoir d'achat à la main du chef d'entreprise, qui fait que s'il a la capacité de redistribuer, eh bien, il le fait. S'il ne peut pas, il ne le fait pas.
Thibault Langsade, interrogé par Fabien Cazot. Une société fracturée avant l'élection présidentielle, c'est ce que raconte l'odeur de l'essence, sacrée chanson de l'année signée Aurel San. Aux victoires de la musique, le rappeur a reçu 3 trophées, celui-ci donc, mais aussi artiste de l'année et création audiovisuelle. Clara Luciani a reçu 2 victoires, artiste féminine et album de l'année.
C'était il y a une semaine, Madagascar était frappé par le cyclone Batsirai.
Il a fait 120 morts et près de 120 000 sinistrés sur toute l'île. La première ville qu'il a touchée, c'est Mananzar, une commune côtière du centre-est. 90% des maisons et des bâtiments ont été endommagés. Mais au milieu de ces scènes de chaos, les habitants ne se plaignent pas. Parmi eux, des franco-malgaches qui ont tout perdu et que notre envoyée spéciale Sarah Teto a rencontré.
Là, c'était la maison de mon petit-fils. Ça, c'est le toit de ma maison. Mes affaires sont encore dessous, enchevelies.
Raymond, 87 ans, marche sur un champ de ruines. Sous ses pieds, le toit de sa maison effondré, comme toutes celles des membres de sa famille autour.
1, 2, 3, 7 en tout. Détruit. Tout.
Samedi soir, des rafales de vent à 240 km/h se sont engouffrées dans la ville. Avec ses 10 enfants et ses 66 petits-enfants, Raymond est parti se réfugier dans l'un des abris de la commune.
On a pu amener les marmites, quelques vêtements, c'est tout.
Au petit matin, le spectacle est terrible. À moins d'un kilomètre de là, le Jardin de la Mer, cet établissement hôtelier prisé pour sa verdure luxuriante, est méconnaissable. Aucun des bâtiments en dur n'a résisté.
Aujourd'hui, mon jardin est englouti de 2 mètres de sable.
Face au chaos et à l'immensité de la tâche qui s'annonce, Roselyne, la propriétaire, ne flanche pas.
Je pense que le plus urgent, c'est de pouvoir nettoyer d'abord. Faut pas que je baisse les bras.
L'État malgache a lancé un appel à l'aide internationale. À Mananzar, qui n'a ni eau ni électricité depuis une semaine, l'aide humanitaire se met en place. À Mananzar, Sarah Tetto pour France Inter.
Enfin, si vous avez aimé les baskets qui se lassent toutes seules de Marty dans Retour vers le futur, vous en souvenez, vous allez adorer les baskets spatiales de Thomas Pesquet. Des bottiers toulousains ont créé pour l'astronaute des Space Jordan qui ne vont pas le dépayser. Soizic Pelé.
Les amateurs de baskets l'auront compris avec le nom, ces Space Jordan ressemblent beaucoup à une paire très célèbre. Mais si l'on se rapproche un peu, on se rend compte que les matières sont différentes. Jean-Emmanuel Pialou est bottier, créateur de ces chaussures.
Les matières qu'on a choisies pour cela, c'est des matériaux de l'espace. Vous avez de la combinaison d'astronautes, fait pour résister à de très basses températures. Il y a du MLI, c'est de l'isolant de satellite. Il y a du grillage laiton, utilisé en robotique spatiale. Même sur le cuir, vous avez un rappel, puisque que c'est un imprimé en grain lunaire. Toutes les parties de la chaussure parlent de l'espace.
Et en plus, c'est du local.
On a de la chance, à Toulouse, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le spatial. Donc on les a contactées et elles nous ont fourni ces matériaux. On n'aurait jamais pu trouver du Betacloth, là, donc la combinaison d'astronautes, en allant chez Toto à côté.
Il a fallu une centaine d'heures de travail au total, 4 fois plus qu'une paire de baskets classiques fabriquées dans cet atelier, pour le design, la recherche des matériaux, pour tester ces matières et enfin pour les assembler. Avec du cuir tout de même pour le dessus notamment des baskets, histoire que Thomas Pesquet puisse les porter dans la rue par exemple, même si Jean-Emmanuel Pialou a une autre idée.
On espère le voir fouler le sol lunaire avec ses Space Jordan 1.
Oui, en attendant, je vous laisse imaginer le prix que pourraient atteindre ces Space Jordan s'ils venaient à l'idée de Thomas Pesquet de les vendre.
Basket au pied, basket en tissu, hein, normal, c'est le journal des sports.
Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
C'est l'heure de la revanche à Pékin pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
Le très gracieux binôme de danse sur glace entame son programme rythmique sur la patinoire à la mi-journée. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Emma.
En direct de Pékin pour France Inter, le couple de patineurs qui avait dû se contenter de l'argent à Pyeongchang vise cette fois l'or qui manque à leur palmarès.
Et leur collection de titres est déjà impressionnante, un quadruple champion du monde, quintuple champion d'Europe, mais il reste une place dans l'étagère pour cette médaille d'or à laquelle le couple pense depuis 2018, depuis ces Jeux de Pyeongchang où ils terminent deuxième après la mésaventure de la robe de Gabriela Papadakis, ce tour de cou qui s'était détaché en pleine danse courte. Alors en 4 ans, beaucoup de choses ont changé, leurs principaux adversaires ne sont plus canadiens, mais russes, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov sont les seuls à avoir battu les Français ces dernières années. C'était au championnat d'Europe en 2020. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont aussi plus d'expérience, plus de maturité, de détermination, comme ils expliquent eux-mêmes, malgré la pandémie qui les a bloqués chez eux à Montréal pendant des mois. Et ils débarquent ici en Chine avec un nouveau programme peaufiné depuis 5 mois. Programme osé sur le thème du walking, une danse née dans les années 70 dans les clubs gays de Los Angeles. Un pari qu'ils espèrent gagnant en attendant le programme libre lundi prochain.
La danse rythmique, donc, pour commencer à la mi-journée, après 2 jours sans médaille. La délégation tricolore mise tout sur le biathlon tout à l'heure, le sprint masculin qui commence à 10h avec notamment Quentin Fillon maillé sacré mardi en individuel. En tout cas, c'est déjà raté pour le snowboard cross par équipe. Les 2 duos tricolores engagés sont éliminés dès les quarts de finale.
Les Bleus du rugby entrent dans le vif du sujet cet après-midi au Stade de France.
Après avoir largement battu l'Italie, le 15 de France joue son 2e match de ce tournoi destination face au 15 de trèfle. Les Irlandais qui ont dominé les tenants du titre gallois et sont les seuls avec les Bleus à avoir battu les All Blacks l'an passé. Autant dire que le tournoi ne fait que commencer, mais qu'on croit déjà vivre la finale, Fanny Lechevestrier.
Et vous savez à quoi on reconnaît une rencontre décisive, une finale avant l'heure? C'est aux petites phrases qui rythment l'avant-match, comme celle du capitaine irlandais James Ryan, qui a annoncé vouloir réduire au silence un Stade de France à guichet fermé avec ses 80 000 spectateurs. Un message bien reçu par le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galthié.
C'est quelque chose qu'on entend, qui va être partagé, bien sûr, avec le groupe, sachant que nous, notre objectif, c'est de vivre l'émotion la plus intense possible avec nos supporters, de vivre le sublime. Hein.
Le sublime, entre les deux meilleures nations européennes du moment, les deux équipes qui ont battu les All Blacks en novembre. Mais c'est là aussi la petite inquiétude que l'on a, car pour atteindre le sublime, les Bleus devront vraiment hausser le niveau de jeu montré face à l'Italie. Sur ce point, le capitaine tricolore Antoine Dupont se veut rassurant.
L'équipe est consciente qu'il va falloir élever son niveau de jeu individuellement et collectivement. Il n'y a pas de souci à avoir. Il y a aussi beaucoup de positifs de la tournée de novembre qui n'est pas très loin et des entraînements qu'on effectue depuis deux semaines. Voilà, on se prépare pour jouer ce genre de match.
Car personne ne veut revivre un scénario similaire à celui de 2018, l'année du dernier grand chelem des Irlandais.
Le drop de Jonathan Sexton à la dernière seconde crucifie l'équipe de France. Que c'est dur, on est triste, on est abattu.
Cauchemar à oublier, à ne pas reproduire France-Irlande. C'est à partir de 17h45 et avant cela à 15h15, les Gallois tenant du titre affrontent l'Écosse.
Oh, merci Emma.
Emma Sarango dans le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Un samedi plutôt couvert, en tout cas le matin, Jean-Michel Golinski.
Un ciel souvent plus gris qu'ailleurs aujourd'hui sur les hauteurs du Languedoc, jusqu'aux plaines côtières du golfe du Lion et sur la face occidentale de la Corse, avec pour ces régions des ondées par intermittence, tandis que partout ailleurs le temps sera sec, mais tout de même souvent assez voilé. Des nuages de haute altitude ce matin du centre à la façade atlantique, se décalant en seconde partie de journée vers le Midi-Pyrénées et le quart nord-est. Notez les brouillards assez répandus aux premières heures entre les Pyrénées et la Garonne, avec ce matin des températures négatives en dehors du domaine côtier, jusqu'à moins 7 degrés relevés par exemple sur la Haute-Saône, la Creuse et l'Aveyron, moins 6 sur la Meurthe et Moselle, moins 5 sur la Bourgogne et les Ardennes. Cet après-midi, les valeurs vont partout égaler celles enregistrées hier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.